Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans Du Grain à Moudre. Ce soir, y a-t-il un projet djihadiste en Afrique de l'Ouest ? Toujours aucune nouvelle des deux touristes français portés disparus dans le nord du Bénin depuis le 1er mai dernier. Ils visitaient le parc animalier de la Pendjari en compagnie de leur guide qui, lui, a été tué. L'hypothèse d'un enlèvement est considérée comme la plus probable. Le Bénin était pourtant considéré jusqu'à présent comme un pays sûr, presque une exception dans cette région de l'Afrique de l'Ouest. Mais sa frontière commune avec le Burkina Faso, frontière qui traverse le parc de la Pendjari, renforce la piste du terrorisme islamiste car depuis 3 ans, le territoire burkinabé est devenu une des bases du djihadisme en Afrique. Il n'est pas le seul. Le Mali, le Niger, le Nigeria entre autres sont confrontés aux actions violentes de ces groupes, lesquels ont la capacité à se mouvoir et à contaminer de nouveaux pays, selon un mouvement qui aujourd'hui va du nord vers le sud. Pour autant, la multiplicité des zones de combat ne veut pas forcément dire qu'il y a une unicité des combattants, ni donc de projet global, comme a pu l'incarner par exemple l'État islamique en Irak et en Syrie. Le contexte local est souvent déterminant, ce qui ne facilite pas la coopération entre les États pour lutter contre ce phénomène. Alors y a-t-il un projet djihadiste en Afrique de l'Ouest ? On en discute ce soir avec 3 invités, à commencer par vous, Jean-Claude Félix Tchikaya. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes chercheur pour l'Institut de prospective et sécurité en Europe, l'IPSE. De quoi s'agit-il ?
C'est un institut, c'est l'institut de prospective où on fait des recherches, on propose nos analyses et nos préconisations pour les États, les structures du monde entier, donc français, européens, africains.
Et vous travaillez notamment sur les questions de sécurité en Afrique. Et pour discuter avec vous, Vincent Hugeux, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes journaliste, grand reporter à l'Express. Vous tenez une newsletter, l'Afrique en face. Le tout dernier numéro est consacré à la situation au Bénin. Vous êtes spécialiste de l'Afrique. Et je renvoie à votre dernier ouvrage, c'était chez Perrin en 2017, que vous avez consacré au colonel Kadhafi, intitulé Kadhafi. Et puis notre 3e invité, il se trouve au téléphone, il est dans le sud de la France. Il s'agit de Rémi Carayol. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes journaliste, on peut notamment vous lire dans Mediapart, Le Monde Diplo, Jeune Afrique. Vous menez par ailleurs régulièrement des enquêtes pour la FIDH, la Fédération Internationale des Droits de l'Homme. La dernière en date, elle date de mars 2019, en tout cas sa publication. Elle est intitulée « La résurgence de Boko Haram menace les États frontaliers du lac Tchad ». Alors, je voudrais qu'on commence avec cette disparition. Ça fait maintenant 10 jours de 2 touristes français dans le nord du Bénin. Je le disais, enfin c'est ce que disent en tout cas les spécialistes, l'hypothèse de l'enlèvement est la plus probable malgré l'absence de revendication. Est-ce que cette absence de revendication ne permet pas d'imaginer que c'est peut-être autre chose qui s'est passé ou bien est-ce que c'est quelque chose qui vous paraît assez normal, Jean-Claude Félix Tchikaya ?
Malheureusement, on peut dire au regard de l'histoire du djihadisme dans cette région que 9 fois sur 10, nous en parlions tout à l'heure en off, il n'y a pas de revendication. En tout cas, ce type d'enlèvement ou d'attaque ne sont pas revendiqués. Le mode opératoire, par contre, lui, nous renseigne et nous révèle que c'est sûrement, en tout cas, soit des sous-groupes ou soit les groupes premiers, entre guillemets, qui agissent et qui veulent, qui travaillent à l'expansion dans toute l'Afrique de l'Est et notamment de l'Ouest et notamment dans le nord du Bénin. Ou pas seulement depuis quelques mois pour le nord du Bénin et d'autres pays qui semblaient être en dehors ou être épargnés, ce qui malheureusement ne concourait pas pour les pays et les États avoir une vision concertée. Hein. Le djihadisme, c'était plutôt le djihadisme et le terrorisme à côté, chez le voisin et pas chez soi. Et on voit que là, il y a une stratégie en face d'autres stratégies internationales, la communauté international, mais on peut d'ores et déjà dire qu'il y a, pour répondre à la question, l'objet de votre émission de ce soir, qu'il y a plusieurs projets d'extension djihadiste en Afrique de l'Ouest.
Et on va voir d'ailleurs si cette contagion se traduit peut-être par une prise de conscience aujourd'hui au niveau des États, puisque vous disiez, Jean-Claude Félix Tchikaya, qu'on avait peut-être jusqu'à présent l'impression que ça se passait plutôt chez le voisin et pas forcément sur son territoire. Toujours sur, alors on en est réduit aux hypothèses, c'est toujours un petit peu compliqué de travailler là-dessus, Vincent. Sans Hugeux, mais j'ai notamment lu que ça pouvait être aussi des groupes criminels qui auraient capturé ces 2 touristes, qui pourraient être ensuite avoir été livrés à des groupes djihadistes.
C'est un modus operandi que l'on a vu à l'œuvre en Irak, en Syrie, au Sahel.
Vous avez à côté des trois grandes entités djihadistes organisées, à savoir le groupe de soutien à l'islam et aux musulmans, régenté par le Touareg malien Iyad Agrali. Premier. Ensuite, la déclinaison locale de Daesh, l'État islamique au Grand Sahara, et un mouvement d'obédience plus locale, très présent notamment dans le nord du Burkina Faso, même si son bastion originel est au Mali, qui s'appelle Ansar ou l'Islam, donc les défenseurs de l'islam. Mais autour de ces trois planètes gravitent une infinité de petits surgeons qui sont des groupes qui sont parfois à mi-chemin entre le djihadisme et le banditisme, parfois des groupes qui sont plongés corps et âme dans le grand banditisme et qui, par effet d'aubaine et par opportunisme, savent la valeur marchande de l'otage occidental, touriste ou pas, journaliste, agent humanitaire, et donc vont ensuite vendre à un groupe qui, lui, a un agenda idéologique connu, l'intéressé ou les intéressés, pour en faire des monnaies d'échange, le cas échéant.
Alors jusqu'à présent, Rémi Carayol, le touriste occidental pouvait se rendre au Bénin en ayant l'impression que c'était un pays qui était sûr. Comment se fait-il que ce pays se retrouve aujourd'hui, même si, je le rappelle, hein, on verra bien ce qu'il est advenu de ces deux touristes qui ont disparu dans le nord du pays, mais comment se fait-il que ce pays est désormais inscrit sur la carte des zones à risque par rapport à cette question très complexe du terrorisme islamiste?
En fait, il est touché lui aussi à son tour par la contagion, l'effet de contagion qui a touché plusieurs pays de la zone petit à petit. Il se trouve que dans l'est du Burkina Faso, qui est une zone frontalière avec le Bénin, mais aussi avec le Ghana, avec le Togo et avec le Niger, dans l'est du Burkina Faso est apparu un groupe dont on a du mal encore à définir la nature, mais qui semble être un groupe djihadiste et qui a tenté de s'implanter dans cette zone au début de l'année 2018 et qui a commencé à mener des opérations notamment contre des cibles militaires au Burkina Faso, mais aussi au Niger, contre des écoles, contre des civils aussi. Et il faut savoir que c'est une zone où il y avait déjà une forme de grand banditisme relativement bien organisée. C'est une zone frontalière où il y a beaucoup de transports, il y avait des coupeurs de route très actifs. Et c'est en cela que je rejoins ce qu'a dit Vincent Hugeu à l'instant, c'est-à-dire que c'est pas impossible que ce soit un groupe criminel qui connaissent parfaitement cette zone-là, qui a enlevé les deux touristes pour, dans l'optique, ensuite de les revendre tout simplement à un groupe djihadiste qui aura la, on va dire la puissance de pouvoir négocier ça avec l'État français éventuellement.
C'est une zone frontalière. Le parc de la Pendjari s'étend en plus sur plusieurs pays. C'est assez vaste. C'est sans doute extrêmement difficile à contrôler. Mais est-ce qu'on peut aussi dire, Vincent Hugeu, que la situation politique intérieure au Bénin peut favoriser justement ce genre de phénomène et ce genre de contagion?
Alors, il n'y a pas de lien de causalité organique, puisque la crise politique dont on va dire un mot que traverse l'ex-Dahomey aujourd'hui est en fait plus récente que ces phénomènes de pénétration qui viennent d'être évoqués, puisque d'après les services de renseignement africains et occidentaux, il y avait déjà eu des missions de repérage, en quelque sorte de reconnaissance, dans le nord du Bénin et dans le nord du Togo dès 2014-2015, dans l'hypothèse d'une nécessité, par exemple, de repli. Sinon, il est clair que, pour faire bref, le Bénin, qui passait à juste titre pour la Sorbonne de l'Afrique de l'Ouest, pour une sorte de pionnier de l'épopée démocratique, c'est là qu'a eu lieu la première grande conférence nationale souveraine dès 1990, et les Béninois sont infiniment fiers de ce passé pionnier, eh bien le Bénin est bizarrement, étrangement, enlisé aujourd'hui dans une crise politique assez grotesque, puisque au prétexte d'une réforme du code électoral assez rigoriste, et il faut le dire, du manque de réactivité de certains partis politiques, eh bien les législatives qui viennent de s'y dérouler se sont réduites à un tête-à-tête assez baroque entre deux partis parrainés par le président Patrice Talon, qui a donc exclu de facto toutes les formations d'opposition. Et donc on a aujourd'hui une contestation forte. Pour la première fois depuis bien longtemps, le Bénin a fait l'expérience douloureuse de la violence politique. Il y a eu des morts, même si le bilan total est difficile à arrêter, selon les estimations, entre 3 et 7 tués.
Voilà, parce qu'il y a eu des manifestations qui ont été réprimées.
Il y avait un épicentre qui était la résidence de l'ancien président Thomas Boniaï, avec des rumeurs de tentatives d'enlèvement. Donc, les gens qui sont des partisans de Boniaï ont dressé des barricades. Il y a eu une répression assez brutale. Donc, qui s'est traduite par mort d'homme. Et donc, il est clair que même si, encore une fois, j'y insiste, il n'y a pas de causalité, eh bien, ce contexte, évidemment, favorise la pénétration de toute idéologie contestataire.
Est-ce qu'on peut dire, pour élargir peut-être à l'ensemble de la région, Jean-Claude Félix Tchikaya, que, en tout cas, les mouvements djihadistes, les mouvements de terrorisme islamiste sont d'autant plus aptes à prospérer sur le terrain que les États sont des États qui sont fragiles politiquement?
Oui, on peut dire que la fragilisation des États pour les groupes islamistes, c'est de véritables boulevards. Hein. On voit bien qu'en Afrique de l'Ouest, mais aussi dans d'autres pays africains, il faut toujours rappeler que l'Afrique, c'est 54 pays. Donc, on voit souvent l'Afrique seulement d'un œil où on veut amalgamer des choses qui sont beaucoup plus complexes. Là, comment se saisir de la complexité de ce qu'on est en train de discuter ce soir? Savoir que l'enlèvement des deux touristes de France est un enlèvement géopolitique, donc ils en connaissent la valeur géopolitique, et ce que ce soit donc des groupes terroristes, soit des sous-groupes ou ceux qui font partie des groupes les plus dotés aussi sur le plan idéologique, sur le plan économique ou si c'est lié au banditisme, en tout cas ils en connaissent la valeur géopolitique et ce qu'ils pourront en avoir en valeur marchande.
Le fait que ce soit des Français aussi, d'ailleurs, c'est quelque chose qui doit être pris en compte. Il se trouve qu'en, je crois que c'est il y a quelques mois de cela, il y a eu une vidéo alors du chef de l'État islamique, Aboubakar al-Baghdadi, qui appelait notamment les franchises maliennes et burkinabées de Daesh à intensifier les frappes contre la France croisée et contre les pays alliés de Barkhane, l'opération Barkhane, c'est-à-dire l'opération qui est en place au Mali depuis déjà quelques années.
Oui, on peut y voir un lien. De toute façon, son appel a été entendu et malheureusement vient épaissir ce qui peut avoir parfois comme sentiment entre guillemets anti-français pour différentes raisons, mais il faut savoir aussi et rappeler comment le Burkina est déstabilisé. Des milliers, des centaines d'écoles sont fermées ou l'accès est rendu difficile. Et la contagion islamiste djihadiste se joue aussi de la donnée géo-ethnique, politico-religieuse de la région, et qui parfois ressort par l'intermédiaire de la mobilisation de chefs d'État ou d'opposition qui vont mobiliser le côté ethnique, le côté religieux et autres, et la montée de la religiosité dans nombre de pays d'Afrique, et notamment en Afrique de l'Ouest, qui malheureusement ne joue pas en faveur d'une prévention et d'un combat contre tous les groupes qui sont en train d'émerger et de se solidifier et d'avoir de véritables stratégies et eux aussi une prospective.
Vincent Hugeux.
Alors, la cible française est explicite. Parmi les rares actions revendiquées ces derniers temps, vous avez eu en avril 2018 au Burkina Faso l'assassinat d'un maire, une localité qui s'appelle Koutougou, mais également l'enlèvement d'un instituteur dans un village Nassoumbou, et la revendication stipulait qu'il avait été enlevé à raison du fait qu'il enseignait en français, donc dans la langue du colonisateur impie exécré. Une des actions d'éclat qui a le plus joué pour le prestige de l'État islamique dans le Grand Sahara, qui là aussi a revendiqué, c'est une embuscade qui a eu lieu à Tongo Tongo en octobre 2017, où vous avez eu la mort de 4 soldats nigériens, on est au Niger, mais aussi de 4 militaires américains qui font partie de ce déploiement antiterroriste que a préservé Washington. attention à ne pas, comme toujours en ces matières, essentialiser le conflit. C'est-à-dire que, bien sûr, la dimension religieuse existe, elle est instrumentalisée, mais elle vient aussi se greffer sur du ressentiment social. Je prends un seul exemple et je termine là-dessus. Quand vous regardez l'histoire donc de Ansar ou l'islam, cette mouvance djihadiste que j'évoquais tout à l'heure, elle a aussi construit son assise. Alors, sur les amertumes de la population peul, ça n'en fait pas un mouvement intégralement peul pour autant, mais elle a aussi beaucoup joué contre un ordre social qui est régi par les chefferies coutumières, par les familles maraboutiques, et qui passe pour archaïque aux yeux de beaucoup de jeunes.
Alors, il y a sur justement cette dimension locale qui est essentielle pour comprendre comment aujourd'hui prospèrent ces mouvements djihadistes. Il y a eu une note qui a été publiée il y a quelques semaines très intéressante de l'Institut Thomas More qui est signée Antonin Tisseron sur le phénomène djihadiste dans les États du Golfe de Guinée. Donc, on est en Afrique occidentale et qui dit notamment ceci. L'engagement dans un groupe armé djihadiste ne peut être réduit à la progression de courants religieux importés du Golfe arabo-persique. Il y a aussi un rôle majeur, dit-il, du sentiment d'injustice et des conflits locaux. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette analyse, Rémi Carayol?
Ah oui, c'est central. Réduire l'expansion des groupes djihadistes à ce simple phénomène religieux, ça serait se tromper sur la nature même des conflits en fait que l'on voit à l'œuvre actuellement dans le Sahel. Dans tous les terrains où moi je suis allé, sur tous les terrains où je suis allé, où il y a des groupes djihadistes qui prospèrent, ces groupes mettent surtout l'accent sur les conditions sociales, sur l'ordre social, sur les faillites de l'État central. C'est ça la première chose, le premier modus operandi pour recruter des personnes, que ça soit Boko Haram au Tchad ou au Niger ou au Cameroun, que ça soit la Katiba Massina dans le centre du Mali, que ça soit Ansar ou l'Islam au nord du Burkina Faso ou dans l'est du Burkina Faso, ce groupe qui est pour l'instant difficile à définir. C'est sur ces aspects-là qu'ils mettent l'accent. Et pour une raison très simple, c'est que ce sont des zones qui en général ont été oubliées des États centraux. Alors on est déjà dans des États qui sont pour la plupart défaillants dans l'ensemble du territoire, mais il y a des zones qui sont particulièrement oubliées. Et dans ces zones, souvent, les seuls représentants de l'État que l'on voit, ce sont les agents des eaux et forêts ou ce sont les militaires qui ont l'habitude de taxer les populations civiles pour tout et pour rien. Donc cet aspect, il est essentiel. Là où le phénomène religieux intervient, c'est qu'il offre en fait des lieux de sociabilisation qui permettent de recruter encore plus facilement, à savoir des écoles coraniques ou des mosquées dans lesquelles on prodigue une version radicale de l'islam et où il est plus facile en quelque sorte de trouver matière humaine à recruter.
Rémi Carayol, je ne sais pas si vous vous en souvenez, sans doute que oui, mais en mai 2017, vous aviez signé un article pour Le Monde Diplomatique sur le spectre d'un djihad peul, dans lequel article vous expliquiez que et les conditions, alors notamment les bouleversements, le réchauffement climatique et les politiques économiques qui étaient très défavorables au peul faisaient que les éleveurs, parce que c'est un peuple d'éleveurs, prenaient les armes pour défendre leurs revendications. Et du coup, prenez les armes en rejoignant des groupes islamistes, des groupes terroristes?
Oui, parce que ce sont aujourd'hui ces groupes qui représentent quelque part l'alternative la plus crédible face à des États qui sont souvent jugés prévaricateurs et qui sont souvent perçus par les éleveurs comme un ennemi, parce qu'eux-mêmes sont victimes des représentants de cet État. Je reviendrai, cela dit, sur ce terme de spectre du djihad peul, qui renvoie à une thèse selon laquelle les peuls pourraient se réunir dans un seul mouvement. C'est évidemment pas l'idée qu'il y a dans le texte et l'histoire récente nous montre qu'on n'est pas dans cette situation-là, c'est-à-dire que les peuls qui prennent les armes au Nigeria n'ont pas grand-chose à voir avec les peuls qui prennent les armes au Burkina Faso ou ceux qui prennent les armes au centre du Mali. On est vraiment dans des situations très différentes d'un endroit à l'autre, mais il se trouve que les peuls, parce que justement c'est un peuple notamment d'éleveurs, sont en première ligne des évolutions de notre siècle actuel et notamment du réchauffement climatique. Ce sont les premières victimes du réchauffement climatique.
Jean-Claude Félix Tchikaya.
Oui, je crois qu'il faut pas. Je suis pas du tout dans l'essentialisation du continent africain, mais on ne peut pas mettre de côté la conjugaison. C'est pas ce qui a été fait. La conjugaison des facteurs, le facteur géo-ethnique, beaucoup. L'avancée de la religiosité concerne toutes les strates des sociétés africaines et notamment d'Afrique de l'Ouest. Et notamment les stratégies djihadistes et liées au banditisme ou liées aux idéologies. Et il est important, parce que l'ethnie, et pas au sens tribu, vision, Tarzan ou kirikouesque de l'Afrique, en parlant très sérieusement et en voyant comment l'ethnie régit parfois la vie, et souvent la vie des Africains sans essentialiser. Donc on voit bien pourquoi aussi cela est mobilisé, soit pour transcender, comme le faisait Houphouët-Boigny, savait qu'il fallait avoir une géopolitique. Quand on nommait un gouvernement, s'il y avait 18 ministres, il fallait pas 15 baoulés ou 15 bétés pour aller vite, mais qu'il fallait un certain équilibre. Donc ceux qui ont justement une idéologie pas nihiliste, mais une idéologie terroriste et djihadiste, se jouent aussi de cela. Et le côté géo-ethnique et le versus les inégalités sociales et le côté géostratégique pour le Lake Tchad et autres, parfois il y a des connivences qui vont malheureusement conduire des personnes qui vivent sur ces territoires ou qui sont originaires de ces territoires, de tomber dans le déni, parce que on parle de mon ethnie, on parle de ma religion, donc je ne peux pas trop parler, je ne peux pas trop dire. Donc ce qui malheureusement épaissit les chances des prosélytes les plus sombres. Et c'est important, je pense, que dans la prévention pédagogique, politique, pour combattre le djihadisme et l'avancée des terroristes, de bien se saisir de tous les aspects dont se saisissent stratégiquement les groupes terroristes, qu'ils soient des sous-groupes ou qu'ils soient liés au banditisme. Ils savent se jouer de tout ça parce qu'ils ont intégré tout ça, qu'ils soient riches ou pauvres.
Alors je vous rappelle la question qu'on pose ce soir. Y a-t-il un projet djihadiste en Afrique de l'Ouest? Nous le faisons avec vous, Jean-Claude Félix Tchikaya, qui venait de vous exprimer, avec Rémi Carayol, qui est journaliste et qui mène des enquêtes pour la Fédération internationale des droits de l'homme, des enquêtes sur le terrain, et puis avec le journaliste grand reporter à l'Express et spécialiste de l'Afrique, Vincent Hugeux. Alors on a bien compris que les situations différaient selon qu'on est dans un pays ou dans un autre, mais que les groupes djihadistes, les groupes islamistes instrumentalisent et se servent aussi de ces crises pour porter quoi? Est-ce que c'est pour porter un projet global ou bien est-ce que c'est quelque chose qui se fait état par état? Ou bien est-ce que comme au temps de l'État islamique en Irak et en Syrie, il y a l'idée d'un projet politique et territorial qui transcendrait les frontières en Afrique de l'Ouest?
L'échelle du temps n'est pas nécessairement la même pour le cerveau d'un projet djihadiste global que pour les observateurs démunis que nous sommes. Dans l'instant, l'idée d'établir un peu sur le modèle éphémère d'ailleurs du califat irako-syrien un territoire homogène qui aurait son mode de fonctionnement, qui serait en fait de facto accepté comme tel, comme une enclave idéalisé de la vie du temps du prophète, ce projet-là n'est pas d'actualité. Et ils en ont conscience. D'où la stratégie qui consiste bien davantage aujourd'hui en s'adossant aux faiblesses ontologiques des démocraties flageolantes africaines, de créer et d'ouvrir des micro-fronts un peu partout. J'ajoute un autre élément. Très souvent, et parmi les stéréotypes qui circulent, il y aurait cette idée qu'on est simplement dans une conflictualité brutale, qu'ils imposent, comme ils l'ont fait à Tombouctou, à Gao et ailleurs, à la Schlag, un ordre social et religieux impérieux. Oui, mais pas seulement. Parce que s'ils ont réussi à ce point à s'enraciner dans le tissu social, et c'est vrai dans l'extrême nord du Mali, et c'est vrai dans certaines parties du Nigeria et autour du lac Tchad, et ça peut être vrai demain, au nord ou à l'est du Burkina Faso, c'est aussi parce que ils ont leur propre gestion du soft power, en quelque sorte. Les mariages, les adoubements de chefs traditionnels, l'assistance humanitaire et sociale qui vient s'engouffrer dans l'absence tragique vertigineuse de l'État. Parce
oui,
que
se substitue voilà,
mais bien sûr,
aux politiques.
Parce que vous savez, à chaque fois dans ces pays, vous avez, au son du clairon, une cérémonie pour fêter le redéploiement de l'administration. Ah, un préfet ici, un sous-préfet là, une école. Le problème, c'est qu'on reste pas. Et que si on reste 2 semaines, eh bien, il n'y a plus personne. Il a fait le fameux préfet ou sous-préfet. Il court dans l'autre sens pour regagner la capitale parce qu'il n'a pas les moyens, il n'a pas la sécurité, il n'a pas la logistique pour enraciner. Et en plus, il peut être suspect aux yeux des populations locales s'il vient de l'ailleurs. De l'ailleurs de Bamako, de l'ailleurs de Niamey ou de toute autre capitale de la région.
Mais est-ce que ça suppose dans ce cas que ces groupes, ou en tout cas que certains d'entre eux, ne soient pas toujours combattu militairement, mais qu'il le soit peut-être davantage politiquement, ce qui veut dire que ça peut être aussi le politique et les pouvoirs locaux peuvent être amenés à discuter avec ces groupes plutôt que d'en faire uniquement des terroristes. Ou bien est-ce que ça n'arrange pas aussi certains États de n'en faire que des groupes terroristes, Jean-Claude Félix Tshikaya?
Certains États, et notamment tous les États dont on parle en Afrique de l'Est, discutent avec eux, négocie, essaye. Mais le combat contre les terroristes, il est à plusieurs niveaux. Il est sur le plan sécuritaire, mais il ne doit pas être sécuritaire. On parlait tout à l'heure du redéploiement de l'espace public et politique. Il doit se faire parce que eux se redéploient. Eux n'ont pas justement qu'une stratégie brutale sur le plan prosélyte. Ils vont dans tous les endroits où la nature entre guillemets, vide. Eux, ils viennent combler ce vide. Et quand des populations, riches ou moins riches, la puissance aussi de la religion, la puissance des croyances sociales, la puissance des constructions sociales. Tout à l'heure, on parlait des Peuls. Le Peul du Mali, les Peuls du Mali et de la Mauritanie, c'est le même peuple, mais parfois sont en désaccord de manière brutale ou non, alors qu'ils sont du même peuple. C'est de construction sociale, des croyances sociales. Mais ça peut conduire à des affrontements. Donc tout cela, tous ces boulevards, toutes ces avenues, ils rentrent parfois par la fenêtre ou par derrière, sur des lieux en termes de conscience. Et c'est pour cela aussi qu'il faudra une lutte des États sur le plan philosophique, sur le plan pédagogique, qui doit monter en gamme. Et au lieu de mobiliser à chaque moment crucial des élections, avoir un plan géostratégique et géopolitique qui soit beaucoup plus puissant pour affronter justement cette nébuleuse, mais qui est d'une force pédagogique et stratégique puissante.
Rémi Carayol, dans votre rapport pour la FIDH consacré à la résurgence de Boko Haram dans les états frontaliers du lac Tchad, vous appelez notamment à éviter, je vous cite, les amalgames entre terrorisme, rébellion, opposition politique légale et engagement associatif pacifique. Ça veut dire quoi? Qu'il y a une tendance peut-être à mettre dans le même panier, disons, du terrorisme islamiste, des mouvements qui ne sont pas toujours de même nature?
Elle est évidente. On l'a d'autant mieux vu au Tchad que lorsque nous avons mené cette mission, c'était au moment de lorsque l'armée française a, à la demande des autorités tchadiennes, bombardé une colonne d'une rébellion tchadienne venue de Libye, et où on a entendu des discours de la part des autorités tchadiennes, mais aussi des sous-entendus de la part de Jean-Yves Le Drian, le ministre des Affaires étrangères français, selon lesquels ces groupes étaient en quelque sorte des groupes plus ou moins djihadistes, alors qu'ils n'ont rien à voir avec les autres groupes djihadistes qui sont actifs dans la zone. On l'a vu en d'autres endroits, c'est moins directement appliqué, mais on voit bien que quand il y a une manifestation, par exemple dans ces pays aujourd'hui, les manifestations sont quasiment interdites, je pense au Niger ou au Tchad, sous prétexte de sécurité. La moindre manifestation au Tchad, une manifestation contre la pénurie de gaz, a été interdite sous prétexte de sécurité. En fait, la menace djihadiste est aussi exploitée par les États centraux, des États qui sont faibles et qui ont besoin de l'aide, notamment militairement, qui ont besoin de l'aide de la France, des États-Unis ou d'autres pays. Et donc, cette menace, elle est exploitée pour qu'ils obtiennent quelque part un blanc-seing pour mener la répression des contestations sociales, comme ils l'entendent.
Mais ça se fait, ça, puisqu'on sait que la France est très présente dans cette région avec, comment dire, l'accord de la France, ou bien est-ce que la France fait peut-être une erreur d'analyse, une mauvaise lecture de la situation sur place, Rémi Carayol?
sur la colonne des rebelles tchadiens, elle n'a pas pu faire cette erreur. C'est absolument inimaginable. On sait très bien qui ils sont connus. Et je crois pas. Il se trouve que la France, elle a un intérêt majeur dans cette région, c'est de lutter contre le terrorisme. Un deuxième intérêt, c'est de lutter contre les migrations. Et que pour ces objectifs-là, qui sont jugés prioritaires du point de vue français, du point de vue européen même, elle est prête à bien des concessions sur d'autres valeurs.
La France, c'est notamment l'opération Barkhane, Vincent Hugeux, depuis le 1er août 2014. Ça se passe essentiellement au Mali. Est-ce que il y a aussi un lien, là, pour le coup, alors de causalité, entre les opérations qui sont menées dans le pays et le fait qu'un certain nombre de groupes djihadistes se déplacent dans d'autres pays, de plus en plus vers le sud, le Burkina Faso, puis aujourd'hui le Togo et le Bénin? C'est-à-dire, est-ce que c'est seulement une expansion territoriale de la part de ces groupes djihadistes, ou est-ce que ça n'est pas aussi des opérations de repli? Parce que ils sont confrontés, notamment au Mali, à une résistance et de la part des forces maliennes et de la part de l'opération Barkhane.
En préambule, une anecdote. Les pays de la région, Bénin, Togo, Niger, Burkina Faso, s'efforcent à grand-peine de coordonner leur riposte contre le fléau djihadiste. Que s'est-il passé en mars dernier ? Ouagadougou a lancé une grande opération qui s'appelle l'opération Otapuanus, qui veut dire pluie de feu en langue locale, pour précisément traquer les djihadistes qui se trouvaient dans le massif forestier sur le flanc est du pays, et n'a pas pu faire mieux que de prévenir les capitales voisines qu'il y avait un risque d'infiltration consécutif à un repli, etc. Oui, mais on... C'est la moindre des choses, mais ça veut bien dire qu'il n'y a pas d'action concertée, puisqu'on prévient simplement les voisins des effets collatéraux, et on dit après « Ah, ils n'ont pas pris les dispositions qu'il fallait ». Alors sur la France, et je démarrais là-dessus à dessein pour montrer ces phénomènes d'effet de dispersion. Bon, d'abord, la France, c'est le Mali sous l'étendard de l'opération Serval, qui est l'opération initiale. Voilà. Ensuite, l'origine. Quand on passe sous le régime Barkhane, on étend ça à une immense zone de 5 pays avec grosso modo 4000 hommes, ce qui est un non-sens opérationnel. Vous ne couvrez pas une telle zone, surtout quand l'adversité est incarnée par des gens qui ont une connaissance impeccable du terrain, qui évite les déplacements en voiture, qui se déplace à pied en deux roues et par très petits groupes. Donc en fait, la mission Barkhane est une mission impossible. Elle est d'autant plus que la volonté de Paris est depuis longtemps, c'est au terme de ce qu'on appelle dans le jargon militaire un tuilage, de passer le témoin à cette fameuse force G5 Sahel, qui procède à ce stade de la virtualité et des bonnes intentions, pour pouvoir se désengager. Pour des raisons à la fois budgétaires, opérationnelles, d'épuisement des ressources, des hommes, etc. Donc, au fond, cette présence-là, qui n'a pas permis d'éradiquer la menace djihadiste, a au contraire perpétué l'incarnation de l'adversité, de celui que l'on est, du néocolonialiste. Et tous ces stéréotypes-là ont été assez bien, il faut le dire, techniquement en tout cas, exploités par la propagande. Un dernier point, et je termine là-dessus, pour éviter là encore de simplifier l'image. Je me souviens avoir discuté avec des « repentis », entre guillemets, aussi bien du côté du Tchad, du côté du Nigeria, nord du Nigeria, que du côté du Mali. Ces jeunes gens...
Des repentis, c'est-à-dire des
d'anciens soldats supplétifs ou combattants de l'une de ces entités djihadistes. Ils ne vous disent pas que tout petit déjà, ils rêvaient du grand califat. Ils vous expliquent très simplement et très sobrement... Moi, tu comprends, quand je j'étais avec eux, j'avais 2 repas par jour, 1 toit, et je n'ai aucun fantasme sur l'ordre ancien du califat. Moi, j'aime bien fumer, j'adore le foot, les filles et la musique. Mais c'est précisément parce que la performance étatique, administrative est nulle ou indigente qu'il y a cet espace d'enracinement pour eux. Et donc, on peut parler de tout ce qu'on le veut en termes de réponse politique, elle n'a de sens que si l'on montre qu'on est capable de faire mieux à l'échelon du village ou à l'échelon local que l'État, qui encore une fois est souvent une fiction pour les populations locales.
Sur la question de la coopération au niveau de la sécurité, je vais encore citer la note de l'Institut Thomas More. La coopération reste entravée par une culture de la méfiance entre États, entre administrations d'un même État et au sein d'une même administration. Jean-Claude Félix Tchikaya.
C'est très bien résumé, mais on peut dire aussi, tout à l'heure vous avez posé la question, que la France et notamment l'opération Serval, comme ça a été dit, n'est pas assez dotée sur le plan stratégique et de connaissance du territoire. Le vaste territoire.
Oui, parce que comme le disait Vincent Hugues, c'est tellement vaste.
C'est tellement vaste, Sahel, c'est l'Europe, mais c'est aussi des lieux désertiques ou très peu peuplés qui se vivent et à raison souvent comme des lieux ostracisés ou mis de côté et échappent complètement à l'État central. Le nord du Mali ou d'autres lieux sont des lieux qui malheureusement viennent nourrir tout ce qu'on est en train d'expliquer, ces conjugaisons de rancœur, de frustration, mais aussi sur le plan narcissique, c'est-à-dire que le jeune qui aura trois repas par jour, un meilleur salaire, voire en euros et autres, il est aussi sensible au califat sur le plan narcissique, sur le plan de sa vision de lui-même, ou par, s'il ne va plus à l'école, par l'intermédiaire du Coran, ça va lui remplir sur le plan intellectuel son l'état vide sur le plan intellectuel et autres. Donc c'est important de dire qu'il y a une conjugaison, c'est-à-dire qu'il y a en même temps les trois repas, mais aussi la narcissisation de plusieurs individualités qui, au lieu d'être une communauté de singularité à l'intérieur d'un État et d'une nation, il y a une balkanisation qui va être favorisée par ce type de prosélytisme terroriste. Ils vont à fond dans ce jeu et il faut voir tous ces jeux-là de l'individu au groupe et voir que l'État central plus la communauté internationale et je pense aussi à l'Union africaine mais aussi aux instituts qui ne jouent pas assez son jeu et aussi aux institutions africaines qu'il va falloir vraiment qu'ils fassent une réunion beaucoup plus conséquente sur ce qui se répand aujourd'hui en Afrique de l'Ouest et ailleurs, notamment en Afrique centrale.
On a cité justement pour l'Afrique de l'Ouest un certain nombre de ces groupes djihadistes, Ansar al-Islam, l'État islamique dans le Grand Sahara, groupe de soutien à l'islam et aux musulmans. Là, je crois les traductions, il y a bien sûr Boko Haram, il y a Al-Qaïda, il y a l'État islamique. Alors certains de ces groupes sont affiliés à ces plus grandes franchises. Est-ce qu'on sait, Rémi Carayol, est-ce qu'on peut observer en tout cas peut-être des volontés de convergence entre ces différents groupes ou bien est-ce qu'il y a une compétition entre eux?
J'aurais tendance à dire que c'est un peu tout ça et c'est ni l'un ni l'autre. La convergence, elle existe quand parfois des groupes qui sont affiliés à une franchise différente cohabitent parfois sur le terrain. On le voit au centre du Mali, à la frontière entre le centre et le nord du Mali, où des groupes sont franchisés, soit État islamique, soit groupe de soutien, et ils cohabitent et parfois ils peuvent même s'entendre. Il y a d'autres endroits où ils peuvent être en compétition. Mais en fait, cette question-là, je pense, n'a pas de vrai intérêt ou de vrai sens, dans le sens où ce sont encore une fois les problématiques locales qui, tant qu'on n'aura pas répondu à ces problématiques locales, ces groupes prospéreront, qu'ils soient affiliés ou pas à un groupe plus grand, certes, ça leur donne peut-être des moyens ou surtout une visibilité, c'est surtout ça, mais la problématique, elle reste la même et on pourra avoir une profusion de groupes dans des petits endroits qui pourront s'allier ou se franchiser à des groupes plus importants. Pour les gens qui vivent dans cette zone, l'important, c'est pas savoir si c'est État islamique ou Al-Qaïda, l'important, c'est savoir qu'est-ce que ça change pour eux, en bien ou surtout souvent en mal.
Un tout dernier mot, Vincent Hugues, brièvement. Aujourd'hui, quand on est français, l'Afrique de l'Ouest, c'est une zone qu'il vaut mieux éviter?
Je vais prendre un exemple très simple. Il y a 3 ans, j'ai rencontré à Dakar le président sénégalais Macky Sall. Et vous savez, parmi les stéréotypes, il y a cette idée selon laquelle, par exemple, le Sénégal serait prémuni au prétexte que l'enracinement de l'islam confrérique, Tidiane Mouride, serait une sorte d'immunisation contre ce péril-là. Eh bien, ces idées-là ont été totalement anéanties. Donc, je ne peux plus dire aujourd'hui qu'il y a un endroit en Afrique de l'Ouest où vous êtes certain de ne pas être exposé à l'instant T Une action agressive. Je le déplore, mais dire le contraire serait insulter l'avenir.
Et je vois que Jean-Claude Félix Tchikaïa approuve. Merci beaucoup à tous les trois, donc Jean-Claude Félix Tchikaïa, Vincent Hugeux et Rémi Carayol, d'avoir participé à cette discussion. On pourrait retrouver les liens vers les ouvrages, vers cette note de l'Institut Thomas More que j'ai citée à plusieurs reprises sur notre site franceculture.fr, à la page du Grain à Moudre. Merci à l'équipe du Grain, Amélie Perrault, Fanny Richer, Léa Capuano, Antoine Dulster et Cyril Marchand. Émission réalisée par Peyret Legras avec à la prise de son Emmanuel Morse-Duncan. La dispute ce soir sera musicale. Arnaud Laporte, non, pas du tout.
Littérature. Deux ans de vie commune pour en arriver là, Hervé Gardette. Le jeudi, c'est la littérature, Hervé.
Mais oui, mais vous me surprenez tous les jours. C'est, ouais, ça, c'est pour ouais. ça que notre couple dure.
Moi, je serais pas surpris que vous parliez d'Europe demain dans le Club des Idées.
Les populistes peuvent-ils se passer de l'Europe? Ce sera la question qu'on posera.
Rendez-vous demain et on sera, comme chaque vendredi, vous comme moi, au Bel Air. Il est 19h, vous écoutez France Culture, les titres de l'actualité avec Aurélie Kiefer.